Et rebonjour à tous et à toutes, vous écoutez Fréquence Mistral et je suis en compagnie de Sylvie Rochard ce matin. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Alors vous êtes consultante en aide...
Consultante en relation
d'aide. En relation d'aide.
Voilà, c'est un travail qui consiste entre le coaching et la psychothérapie. C'est-à-dire que les gens qui rencontrent une difficulté, soit dans leurs relations privées, professionnelles, ou alors qui traversent une période difficile comme un déménagement, un licenciement, un changement de travail, un changement de vie, ou un deuil aussi difficile à surmonter, via l'aide de mes outils, on va petit pas trouver les solutions en la personne pour dépasser sa problématique. Souvent, au passage, on va voir le problème véritable parce que c'est que l'arbre qui cache la forêt. Et puis, j'ai des gens aussi qui travaillent avec moi qui n'ont pas de problème, pour qui la vie va très bien, mais qui ont envie de connaître un petit peu plus, de se connaître un petit peu plus, d'aller au fond d'eux-mêmes pour découvrir qui ils sont vraiment derrière la façade qu'ils se donnent à eux-mêmes et qu'ils donnent aux autres. Là, cette fois-ci, je voulais parler d'un de mes outils avec lesquels je travaille, puisque j'ai été formée en analyse transactionnelle, qui est un outil de psychothérapie, et vous parler d'un outil particulier qui s'appelle le triangle bourreau-sauveur-victime. C'est un triangle qui est complètement inconscient, c'est des jeux psychologiques qui sont complètement inconscients, mais qui polluent complètement notre communication. Et le fait de connaître cet outil, eh bien, à mon sens, ça permet vraiment d'améliorer notre communication. Et quand on connaît l'outil, ben ce triangle, bourreau, sauveur, victime, on le trouve de partout. Parce que ce sont en fait des postures adoptées inconsciemment. C'est comme des costumes. Si on enfilait des costumes, on s'identifie à notre costume qui nous donne tout un tas de comportements et d'interactions du coup avec les autres. Et du coup, ben, notre communication, il y a souvent beaucoup, beaucoup d'émotions. Hein. D'où l'intérêt de connaître cet outil. Alors, c'est un outil qui a été créé par Stéphane Karpmann, qui est un disciple d'Eric Berne, qui a lui-même créé l'analyse transactionnelle dans les années 60. Karpmann a développé cet outil en 1968 et on l'appelle le triangle dramatique de Karpmann. Pourquoi dramatique? Eh bien, parce qu'en fait, ces postures, on les utilise toutes les trois, à tour de rôle. Alors, certes, on a un rôle quand même privilégié, un costume que l'on privilégie dans nos rapports humains, mais on tourne, et on tourne sans arrêt, sans arrêt. Et c'est dramatique parce qu'on ne sait pas comment en sortir. Alors que la mise en lumière, justement, de ces comportements, ben, c'est déjà le premier pas pour commencer à sortir de ces postures-là. Par exemple, au niveau du bourreau, alors c'est des termes un petit peu forts, ce sont des termes génériques, hein, psychologiques, il ne faut pas s'identifier, c'est pas aussi noir que l'on peut l'imaginer. Le terme de bourreau, on dit bourreau parce que la personne veut avoir le dessus sur l'autre. Dans ce triangle, c'est un triangle qui a la pointe en bas, il y a deux postures hautes, le bourreau et le sauveur, et une posture basse, la victime. Et donc le bourreau, lui, eh bien, il veut avoir le contrôle, il veut imposer son point de vue parce qu'il a raison sur tout. Et il l'impose à base de colère. C'est son sentiment préféré, en fait, parce que pour lui, il a l'impression que pour changer une situation ou les gens en particulier, eh bien, il faut imposer à coup d'agressivité. Alors que je vous rappelle au passage que nous n'avons pas le pouvoir sur l'autre. L'autre ne peut changer que s'il le décide intérieurement et uniquement dans ce cas-là. Mais la personne qui utilise ce costume de bourreau, elle est persuadée que grâce à son autoritarisme, parce que c'est même pas de l'autorité, c'est de l'autoritarisme, elle va pouvoir faire changer et les choses et les gens. Donc du coup, c'est vraiment son moteur principal, la colère. Alors bien évidemment, elle veut rabaisser l'autre, enfin, c'est pas qu'elle veut forcément le rabaisser, mais si l'autre se défend, effectivement, elle est dans déjà l'accusation systématique, le dénigrement, la culpabilisation. Si jamais la personne se rebelle, ben c'est de sa faute. Le bourreau ne se remet jamais en cause. C'est toujours la faute de l'autre. Et je suis en colère à cause de toi. Et pourquoi tu fais toujours ça? Parce qu'il y a des mots particuliers selon les postures. Le bourreau utilise toujours le « tu ». « Tu as fait ci et c'est de ta faute ». Et en communication, le « tu », « tu ». Du verbe « tuer », la communication justement. Quand l'autre se sent systématiquement attaqué quand on parle avec « tu ». En accusant. Donc il utilise tous ces moyens, accusation, dévalorisation aussi, culpabilisation, pour maintenir l'autre en position basse en fait. Hein. Alors, il n'y a pas d'avantage au niveau de la com, parce que contraire, vu son comportement.
Ça tue la conversation.
Ah oui, on a envie de le fuir. Hein, puis on peut pas en placer une de toute façon. Hein, donc on peut pas avoir le dessus avec un bourreau. Donc il y a des solutions pour sortir de ces triangles, bien sûr. Hein, mais c'est vrai que c'est complètement impossible d'avoir quand on a un bourreau en face. Hein, il maintient l'autre en position victime. Parce que le bourreau attire une victime, c'est des rôles très complémentaires en fait, hein, ces trois rôles-là. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions au niveau de la com, du stress de part et d'autre, hein, chez le bourreau, mais aussi chez la victime qui est en face. Hein. Donc c'est vraiment très compliqué. Au niveau pourquoi il a cette attitude-là, ben en fait il ne supporte pas la faiblesse en face de lui. Il ne veut pas se sentir faible. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il met un masque de force. Hein. Mais il ne supporte pas la faiblesse de l'autre. Et il essaie de punir l'autre qui est faible. C'est très inconscient, bien évidemment. Hein. Ça lui permet d'évacuer toutes ses frustrations, les choses comme ça. Voilà. Et ça lui donne l'illusion de puissance et de pouvoir. Parce qu'en fait, l'explication, et vous verrez que c'est un peu la même dans la trois postures avec des degrés différents, c'est que cette personne-là ne s'aime pas. Elle a une très mauvaise estime d'elle-même. Et comme elle ne s'aime pas, ben elle met un masque de force ou de pouvoir pour avoir le pouvoir sur l'autre, mais c'est vraiment un problème d'estime de soi. Au niveau de l'autre position qui est le sauveur, alors on pourrait penser que c'est un rôle meilleur. Non, il n'y a pas de rôle mieux l'un que l'autre, parce qu'ils ont tous leurs défauts quelque part. Le sauveur, ben, lui aussi il est en position haute parce qu'en fait, il pense à la place de l'autre, il porte le monde sur ses épaules, en fait, comme son nom l'indique. Hein, c'est l'image du super-héros, hein, prêt à défendre la veuve et l'orphelin. Hein, c'est vraiment cette image-là. Mais du coup, il prend en charge l'autre. Il veut se sentir indispensable, irremplaçable, parce que ça lui donne une sorte de puissance aussi et de pouvoir. Et il maintient l'autre vraiment en incapacité. Il crée la dépendance, il fait à la place de l'autre. Laisse, je vais le faire, ces expressions. Heureusement que j'étais là. Mais si j'avais pas été là, comment ça serait passé? Vraiment, il veut montrer son pouvoir sur l'autre. C'est pour ça qu'il est en position haute. Hein. Alors, il devance les pensées de l'autre parce qu'il prend en charge, en fait, les besoins de l'autre avant que l'autre lui demande. Le cas typique, c'est en face. Une personne qui soupire en disant « Oh, j'y arriverai jamais, c'est pas possible, c'est trop compliqué. » La personne qui a la posture de sauveur en privilégié ben, va s'amener pour aider l'autre et « Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. » Elle donne des conseils directement. Alors que la personne en souffrance n'a rien demandé. Elle a juste soupiré. C'est ce qu'on appelle une demande d'aide cachée. Ça, c'est la victime qui utilise ce mécanisme. Voilà, ce procédé-là. Mais du coup, voilà, il devance, il n'y a rien qui est demandé, et il va au-devant des besoins de l'autre. Alors, pourquoi il utilise cette posture aussi? Eh bien, en fait, il s'identifie complètement à sa victime, parce que lui-même a eu un passé de victime. Et du coup, il sait que trop bien, il a l'impression de savoir que trop bien ce qu'il faut à la victime. C'est pour ça qu'il va donner les conseils et dire « tu devrais faire ci, tu devrais faire ça », parce qu'il aurait aimé avoir ses conseils lui-même quand il était en propre posture victime. Et du coup, ben, il n'écoute pas l'autre personne, en fait. Il la maintient en incapacité, en posture enfant, en dépendance, en fait. Hein. Alors,
et
donc,
ce rôle-là,
oui.
Avec le bourreau, ça ne peut pas marcher
Au niveau... Alors, un sauveur...
Il va sauver peut-être la victime du bourreau,
Voilà. Elle sauve la victime du bourreau, mais je vais vous expliquer après, c'est que le sauveur, il donne des conseils. Mais la victime, elle n'a pas forcément envie de se sortir de son rôle. Donc, elle rejette les conseils. Et du coup, le sauveur, à un moment, il se sent complètement impuissant à aider sa victime et il passe en victime. Il se plaint, il dit « Mais oui, c'est toujours pareil avec toi, je te donne des conseils, tu ne les suis jamais. » Et du coup, par ce mécanisme-là, il repasse en bourreau. C'est pour ça que ça tourne. Parce que le bourreau, pourquoi il est bourreau? Aussi, ce qui justifie sa position, que je n'ai pas dit, c'est qu'il justifie son agressivité et ses moyens de pression parce que lui-même a été victime. Donc, comme il a été victime avant, il a vécu une trahison.
Il se venge, entre guillemets.
Il se venge, c'est tout à fait ça. Alors, le sauveur, lui, il peut prendre en charge sa victime, mais si sa victime refuse ses conseils, eh ben, il va se transformer en bourreau aussi. Le sauveur, le bourreau... attire inconsciemment des victimes. et recherchent des victimes. Mais quand ils ont leur victime en main, quelque part, la victime, elle ne se contente pas de ce rôle de victime, et je vais y venir maintenant à la victime, c'est qu'elle, elle passe elle-même bourreau, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Alors, la raison de la posture sauveur aussi, ben c'est la même chose, c'est qu'il a une très mauvaise estime de lui-même, lui aussi. Donc, comme il ne s'aime pas, il cherche par sa position de supériorité, de se sentir indispensable, ça lui donne une vraie valeur. Il dit, grâce à moi, et puis c'est sa phrase préférée, grâce à moi, il s'en est sorti, ou voilà, ça lui donne de la puissance, une illusion de puissance. Donc, c'est encore la mauvaise estime de lui-même qui pousse cette personne à prendre cette posture-là. Alors, la victime, elle, ben c'est le fameux Camille Limero, vous savez, le petit personnage de dessin animé, le petit poussin noir là, avec la coquille.
Ils sont trop injustes, personne ne m'aime.
Et ben c'est ça, il se plaint. Alors lui, il se plaint, il est tout le temps triste,
il se sent nul,
complètement impuissant, et puis il est vraiment dans l'incapacité. Puis il y croit à fond, et il délègue complètement son pouvoir à l'autre. Alors du coup, il demande beaucoup de conseils. Et qu'est-ce que tu ferais à ma place? Et si t'étais moi, qu'est-ce que tu ferais? Parce qu'il s'interdit de penser quelque part. Donc il attire inconsciemment un sauveur qui peut se transformer en bourreau. Le souci, c'est que la victime, elle n'a pas forcément envie de s'en sortir. Alors ça, c'est un peu dur à entendre. Mais il y a des personnes, effectivement, qui ont cette posture victime et qui s'y complaisent, je mets quand même des guillemets parce que c'est tout à fait inconscient, parce que le fait d'être victime, de se plaindre, on attire un sauveur. Et du coup, pendant un certain temps, on est pris en charge, on est protégé, on s'intéresse à cette victime-là. Donc du coup, ils ont l'impression d'être nourris. Mais comme ils sentent la personne quand même malgré tout supérieure, et puis ils placent l'autre au-dessus d'eux, au bout d'un moment, ben, ça ne va pas bien. Donc ils rejettent très souvent les conseils et l'aide, avec un jeu psychologique qu'on appelle le « oui mais ». C'est-à-dire « oui, c'est bien ce que tu me dis, ça marche peut-être pour les autres, mais ça ne marche pas pour moi ». C'est un jeu psychologique qui rejette tous les conseils qu'on donne. Et par ce jeu-là psychologique, la victime, très subtilement, passe en bourreau. Parce qu'à force de rejeter les conseils du sauveur, le sauveur, lui, se sent impuissant et il passe en victime tout doucement. C'est vraiment des rôles complémentaires. Donc, la victime, elle passe tout doucement en bourreau. Et à chaque fois, il y a des émotions de part et d'autre. C'est vraiment un capharnaüm. C'est pour ça qu'on l'appelle dramatique, parce qu'on ne sort pas de ces triangles. Parce que le but de ces jeux psychologiques, c'est de maintenir les croyances sur soi, sur les autres et sur le monde en général. La victime, ça va être, de toute façon, je peux ben crever, personne ne s'intéresse à moi. Et ça maintient sa croyance qu'elle est seule.
Et dans une discussion, on est forcément obligé d'adapter un de ses rôles. On ne peut pas être autre chose.
Alors, dans les conversations, dans nos échanges, on est à 80% dans des jeux psychologiques. Alors, j'en ai pas trop parlé ici. Mais on est à 75% dans ce fameux triangle. Avec des jeux psychologiques, parce que ce triangle, la base de la construction de ce triangle, c'est des jeux psychologiques inconscients. Et ces jeux psychologiques permettent de maintenir nos croyances, c'est-à-dire de pas changer notre système de croyances. Je suis nul et je vais le rester, parce que le sauveur, il peut, quand il repasse en bourreau, le sauveur, il passe par la posture victime, puis après bourreau, après il est dans l'accusation. Et oui, mais t'es vraiment nul, effectivement, tu vois bien, t'y arrives pas, donc la victime est maintenue dans ses croyances que je suis nulle, je suis incapable. Le sauveur, quand il sort de ses jeux psychologiques, effectivement, eh ben ça maintient sa croyance que décidément, je peux aider tout le monde, personne ne reconnaît ma valeur. Et le bourreau, lui, ses croyances, c'est les autres, ils sont faibles, ils sont nuls, moi, je suis fort. Donc, ça maintient une certaine homéostasie dans le psychisme. D'où l'intérêt, entre guillemets, c'est un intérêt négatif, un bénéfice négatif. Mais mieux vaut ça que rien du tout. Parce que ces jeux psychologiques, effectivement, nourrissent un besoin essentiel, qui est le besoin de reconnaissance, le besoin d'attention. Le besoin de signes de reconnaissance, c'est un besoin vital dans la pyramide de Maslow. C'est un des besoins essentiels. L'homme a besoin de sentir, voilà, c'est ça. L'homme a besoin de sentir qu'il a un impact sur l'autre. Donc même si on se prend des coups psychologiques, c'est-à-dire des critiques, des choses comme ça, mieux vaut ça que l'indifférence de l'autre. Ça paraît tordu comme système, parce que c'est tout des mécanismes inconscients. Mais c'est ça, en fait, le but de ces jeux psychologiques. Et donc, au niveau de la victime, donc elle n'a pas forcément envie de s'en sortir, et c'est surtout que pourquoi elle est dans ces jeux psychologiques et dans ce triangle, eh ben alors elle a le niveau d'estime d'elle-même en dessous de moins zéro. Alors elle, c'est la plus. Alors là, c'est. Elle s'aime
on
vraiment pas.
Le juge intérieur.
Le juge intérieur de notre de l'enfant intérieur. De l'enfant. Effectivement, le juge intérieur est très costaud, effectivement, pour la victime.
Il dit t'es nul.
Voilà. Et puis toutes les situations qu'elle attire, puisqu'elle attire un sauveur. Elle cherche inconsciemment un sauveur, donc elle attire le sauveur qui, au bout d'un moment, se transforme en bourreau et qui la maintient, qui lui dit bah, « tu vois, t'es vraiment nul » parce que le bourreau passe en accusation. Et ça maintient sa croyance que « je suis nul, je suis incapable ». Effectivement. Donc, c'est le but de ces jeux psychologiques, en fait. Alors, bon, il y a quand même moyen de s'en sortir. Hein. C'est pas inéluctable, heureusement. Ben, en faisant ce travail de mise en lumière, justement, sur nos mécanismes inconscients, en prenant conscience de ses rôles, déjà trouver son rôle privilégié, parce qu'on a ce rôle, un rôle privilégié, ou de la victime, ou du bourreau, ou du sauveur. Alors, quand on est en rôle privilégié bourreau, c'est un petit peu plus compliqué d'en prendre conscience, parce que comme le bourreau ne se remet jamais en cause, que c'est toujours de la faute des autres, ben c'est quand même plus complexe. Mais par contre, pour le sauveur et la victime, effectivement, c'est un s'il arrive à faire un travail sur lui, alors pas forcément tout seul, hein, parce que c'est compliqué, hein, il faut faire appel à un spécialiste ou une spécialiste, puisque j'en suis une. Je fais ma pub au passage. c'est plus facile. Donc, mise en lumière de ces mécanismes, ça permet déjà de pouvoir se détacher un petit peu. Alors, quand on est dans un triangle, ben, déjà, mise en lumière de nos mécanismes inconscients, c'est prendre conscience des croyances qu'on a sur nous. Est-ce que je crois que je suis vraiment nul ? Ça, c'est ce qu'on appelle une croyance qui est limitante, parce qu'on est tellement persuadé qu'on est nul, on ne voit pas toute la richesse que nous avons à l'intérieur de nous. Et ça, c'est vraiment problématique, parce que du coup, on s'identifie, on enfile le costume « je suis nul » et on croit n'être que ça, alors qu'on a une richesse intérieure bien plus importante. Et c'est pour ça qu'on délègue le pouvoir aux autres, parce qu'eux, on croit qu'ils savent. Il faut aussi travailler sur les besoins. Je vous ai parlé dans la posture de sauveur que son besoin, il a un grand besoin de reconnaissance. Et bien cette reconnaissance-là, c'est apprendre par exemple à se la donner soi-même. Oui, j'ai besoin de reconnaissance, de me sentir utile. Et bien c'est de faire un travail de valorisation intérieure. Alors je vous avais parlé d'un exercice par rapport à l'enfant intérieur, de faire la rétrospective de la journée, le soir, et de prendre trois choses dont vous pouvez être fier, mais pas des grandes choses, hein, des toutes petites choses, et de vous valoriser à fond. Et bien là, quand on a ce besoin-là de reconnaissance, si on est en posture sauveur privilégiée, et bien faire cet exercice, effectivement, va vous apporter, nourrir votre besoin intérieur, et vous serez moins tenté d'aller chercher la reconnaissance à l'extérieur. Parce que c'est le problème avec nos besoins. Nous avons des besoins intérieurs, et on va chercher à l'extérieur une réponse à ses besoins. Alors qu'en fait, on est toujours déçu parce qu'on a des attentes. Et l'autre ne lit pas dans notre tête. L'autre n'est pas nous, il a une autre histoire, un autre cadre de référence, comme j'avais dit dans la première émission. Il n'a pas les mêmes lunettes déformantes que nous. Donc tout ce qu'on attend de l'extérieur, on est tout le temps déçu. Donc autant apprendre à se le donner soi-même, par des petits exercices. La victime, elle a besoin d'attention, d'être écoutée. Et bien déjà qu'elle apprenne à s'écouter elle-même, c'est-à-dire à voir sa tristesse, à aller trouver des solutions pour déjà se laisser pleurer, effectivement, s'autoriser à pleurer, mais aller voir en elle qu'elle a des ressources. Alors effectivement, ça peut paraître compliqué, hein, mais il faut être toujours dans la bienveillance de soi-même, faire ce travail d'amour de soi, petit pas par petit pas. Une autre solution, quand vous prenez conscience que vous êtes dans un triangle, c'est trop tard, vous y êtes dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, vous sentez que la personne est dans l'accusation, la culpabilisation. Et par exemple, vous avez un bourreau en face. Donc, très souvent, quand on a un bourreau en face, on se positionne en victime, on s'excuse, on se justifie. Qui s'excuse, s'accuse, ça renforce la position victime. Et au contraire, ce qu'il faudrait faire, c'est prendre un temps avant de répondre à ces accusations, prendre un temps de respiration. Je vous ai déjà parlé de l'importance de la respiration dans la première émission. Effectivement, c'est la base de tout pour se déconnecter de nos mécanismes inconscients, revenir dans le corps. Parce qu'autrement, on se fait happer par nos pensées, on donne de l'importance à nos pensées, on donne de l'importance à ce qui est dit en face aussi, alors que ça nous coupe de notre réalité intérieure. Donc, prendre un temps de respiration avant de répondre, ça va nous déconnecter peut-être de notre rôle. Alors, il faut de l'entraînement, bien sûr, hein, c'est pas du premier coup, voilà, mais ça peut aider. On peut aussi, et puis répondre après, mais si c'est l'escalade, parce que face à un bourreau, c'est pas facile de s'en sortir, c'est refuser d'alimenter les jeux psychologiques et de dire,
donc
par exemple...
mettre fin à la conversation,
ouais. Complètement. Alors, en disant, mais en sortant de son rôle, en disant, ben, je vois que c'est... On peut pas s'entendre. Mettons-nous d'accord sur le fait que nous soyons en désaccord. Voilà, ça peut être une expression. Ou alors, ben, écoutez, je vois, ou écoute, je vois que c'est pas possible qu'on s'entende. On va arrêter là, on en reparlera plus tard. Quand les choses seront calmées. Ou pas, parce que c'est pas forcé. Il y a des gens, des personnes ou qui ont une façon de communiquer qui est nocive pour nous. C'est pas la personne qui est nocive, c'est la façon de communiquer qui est nocive. Parce qu'il faut bien distinguer la personne du comportement.
À chaque
fois, parce qu'il y a la lumière en chacun d'entre nous, hein. Même dans les petits bourreaux, hein, et ils ont leur lumière aussi. Hein. Et puis, petit bourreau, je veux dire, on y passe aussi en petit bourreau, même si ce n'est pas notre posture privilégiée. On tourne dans les trois, je vous ai dit, donc je t'ai dit, donc il n'y a pas de souci. Hein. Alors voilà, pour essayer d'en sortir, refuser d'alimenter ces jeux psychologiques, parler avec le je, J-E, au lieu du tu, je t'ai dit le tu, la communication, et bien là, parler en je, apprendre à dire ce qu'on l'on ressent. Et quand quelqu'un accuse, et tu as fait ci et tu as fait ça, ce que j'entends là me fait ressentir comme ceci. Du coup, de parler de soi, l'autre ne se sent pas attaqué. Et du coup, ça permet d'ouvrir. C'est pas facile de parler en je. Parce qu'on n'a pas l'habitude. On. Alors, tu vois, j'utilise le on aussi. On a le terme de on, généralisation aussi. Il faut apprendre à parler à je n'ai pas l'habitude. Je m'entraîne, effectivement, à parler avec le je. Mais on est souvent dans le tu. Et vraiment, ça, c'est mauvais pour la communication. Donc, apprendre cette différenciation de langage. À demander des clarifications aussi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Sois plus clair. Est-ce que tu demandes de l'aide? Quand on a une victime qui fait une demande d'aide cachée, qui souffle, est-ce que tu veux de l'aide? Alors, l'autre outil, effectivement, un autre outil qui a été développé aussi par un psychiatre américain, parce que Cartman était américain comme Eric Berne, hein, c'est le triangle gagnant d'Assay-Shoy. Il a pris le triangle avec chacune des postures, mais chaque posture doit développer des compétences. Parce que y a pas que tout, c'est pas tout mauvais dans ces postures-là. Elles ont leur lumière, elles ont leurs ressources, ces personnes, ces postures-là. Par exemple, le persécuteur, ben, il doit développer une saine affirmation de lui, sans mettre de l'agressivité, sans prendre le pouvoir sur la discussion, par exemple. Il doit se donner des permissions aussi. Je t'ai dit qu'il supportait pas la faiblesse de l'autre. Eh ben, il doit aller voir sa propre facette faible et s'autoriser à être faible, justement. Bon, pour le bourreau, c'est pas forcément
pas évident,
facile.
Ouais.
Pas évident, voilà, il doit développer son parent nourricier positif. J'en ai parlé dans l'autre émission, c'est par rapport à ce juge intérieur qui critique sans arrêt et lui et l'autre, eh bien, de développer son parent positif. Parce que ce que j'ai oublié, enfin, j'ai pas oublié de le dire, je vais le dire maintenant, c'est que le triangle, l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Quand on attire des triangles dramatiques, quand on est dans des triangles dramatiques, à l'extérieur, avec des personnes autres, ça n'est que le reflet de notre propre triangle à l'intérieur de nous. Parce que nous sommes notre propre bourreau. Ce juge intérieur qui nous envoie ces petites phrases assassines toute la journée, c'est notre bourreau. Et on a la posture victime en disant « j'y arriverai jamais », etc. On a cette posture victime à l'intérieur de nous aussi. Et peut-être aussi la posture sauveuse. Mais le bourreau, ça, notre bourreau intérieur, effectivement, c'est d'en prendre conscience. Donc, du coup, développer un parent nourricier qui est bienveillant avec nous. Donc, c'est encore faire ce travail par rapport à ce juge intérieur, ce travail d'amour aussi. Au niveau du sauveur, ben avant d'aider, il doit se poser des questions. Est-ce qu'on m'a demandé de l'aide, déjà? Et puis, est-ce que j'ai envie d'aider ? Parce qu'on peut... Le sauveur, il va au-devant des besoins des autres, mais il ne s'occupe pas de ses besoins. Donc, est-ce que j'ai vraiment envie d'aider, par exemple ? La victime, ben, elle doit prendre conscience de ses potentialités. Certes, elle a une faiblesse, oui, mais elle a une force. Et elle ne sait plus l'avoir, cette force-là.
Donc, la retrouver.
Voilà, la voir, parce qu'elle est juste camouflée. On a tout à l'intérieur de nous. On est fort et faible. On est peureux, courageux. On est fragile et fort, effectivement. Enfin, ça marche pour tout. C'est l'être humain, il est comme ça. Il a de tout, en fait. Et c'est faire ce travail d'amour sur l'image du diamant que j'avais expliqué dans la première émission. On est un diamant avec mille et une facettes. Il faut s'aimer dans toutes ces facettes-là. Donc, la victime, elle a des solutions aussi. Elle doit apprendre à faire des demandes claires. J'ai besoin de ça, au lieu de faire des demandes d'aide cachée en soupirant, sans clarifier les choses. Elle doit apprendre à exprimer ses besoins. Elle doit apprendre aussi, elle aussi, alors faire le travail de valorisation à fond. Mais alors à fond, puisqu'elle ne s'aime pas. Donc vraiment se valoriser pour les moindres petites choses, pour apprendre à s'aimer. Alors, le dernier outil, c'est l'humour. Hein. Ça, bien sûr, l'humour. Alors là, c'est évident que ça permet de se distancer de toutes ces postures. Pour le bourreau, ben, c'est un petit peu plus compliqué parce que comme il ne se remet pas en cause, mais il peut s'imaginer d'avoir un costume d'ogre, par exemple, d'enfiler un costume d'ogre, par exemple, ou alors de se voir comme un petit garçon ou une petite fille qui fait son caprice. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est le petit enfant intérieur de la personne qui a la posture bourreau qui fait son caprice, qui tape des pieds et qui veut absolument avoir raison. Hein. C'est ça. Au niveau du sauveur, ben, il peut s'imaginer mettre une cape de super-héros et puis de vouloir sauver le monde et puis de le dire à la limite. Hein, dire « Allez, hop, je mets ma cape » et du coup, ça, il va sortir de sa posture. La victime, quand elle est dans son caliméro, qu'elle se voit, qu'elle pleure, qu'elle se plaint simplement, mais qu'elle en fasse des tonnes. C'est-à-dire, elle surjouait le jeu. En disant, oh, je suis la plus malheureuse de la Terre, jamais j'y arriverai. Alors, ce n'est pas se moquer de soi-même. Ce n'est pas du tout ça. C'est mettre de l'humour. Ce n'est pas du cynisme. C'est de la bienveillance. C'est se voir. C'est comme un bon parent, nourricier, justement, qui voit son enfant bah, faire son caprice et qui dit, oui, moi, chérie, ça va passer. T'inquiète pas. Ou voir une petite fille qui pleure, dire « Oui, je comprends que tu es malheureuse, mais tu vas voir, il y a des ressources en toi. » C'est vraiment avoir ce sourire bienveillant vis-à-vis de soi-même. Et ça, ça permet vraiment de déconnecter.
De communiquer.
De déconnecter, oui. Parce que ces jeux psychologiques, ben, il y a différents degrés. Bon, bien sûr, hein, là, j'ai parlé des cas les plus toniques. Hein. Effectivement, je vais faire une petite partie... parenthèse sur un cas de triangle dramatique, ou alors là c'est le cas du triangle extrême, c'est celui joué par les personnalités à comportement pervers narcissique. Et du coup, là, ces personnes-là, elles sont dans des triangles extrêmes. Et je vais dire que juste quelques mots, c'est qu'elles ont une estime d'elles-mêmes très mauvaise, que ce soit le bourreau ou la victime, c'est des personnes qui ne s'aiment absolument pas. Et les comportements que j'ai donnés pour les bourreaux ou victimes bon, sont sur des multipliés. C'est des gens, généralement, au niveau du bourreau, qui sont très intelligents, il y a bon niveau culturel, qui passent bien, très charismatiques, même à la limite, mais qui ont un comportement complètement différent avec leurs victimes. Et la victime, par contre, c'est souvent, elle a une posture de sauveuse, qui veut sauver son bourreau, parce qu'elle voit le côté fragile de son bourreau. Et du coup, après, elle se retrouve victime. Alors, il y a des solutions aussi pour s'en sortir. Ben, tout ce que j'ai dit, c'est vrai qu'il faudrait presque que je fasse une émission entière sur le pervers narcissique, les personnes à comportement pervers narcissique, parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais il y a des solutions pour s'en sortir. Celle à privilégier, c'est de fuir quand même. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de solution dans ce triangle-là pour s'en sortir. Il faut fuir d'abord et travailler sur soi-même après. Parce qu'on ne peut pas sauver la personne indépendamment de sa volonté. On ne peut pas changer l'autre. Et l'autre, la personne qui a le comportement de bourreau, de pervers narcissique, ne peut s'en sortir que si elle se remet en cause et qu'elle décide de travailler sur elle-même. Et ce n'est pas pour tout de suite, puisque généralement, elle est toujours dans l'accusation. Mais il y a de l'espoir. Moi, je suis persuadée que même ces personnes-là oui. arriveront à s'en sortir, mais pas avec leur victime. La victime, elle doit fuir. Voilà. C'est un raccourci rapide, bien sûr, il y aurait tellement à dire, mais... Mais voilà, c'est juste une petite touche. Il y a des solutions pour se sortir même de ces triangles dramatiques-là. privilégier la fuite. Pour se sauver soi-même, c'est le premier acte d'amour qu'on se fera à soi-même, de décider d'interrompre une relation toxique pour soi.
Et tu organises donc de nombreuses conférences
Alors justement, ce soir, je suis à Valouise à 18h à la salle Bon Voisin, dans le cadre de l'Université du Temps Libre de Briançon. Je présente la conférence « Comment sortir du triangle bourreau-sauveur-victime pour mieux communiquer ». Et là, justement, je donne beaucoup plus...
C'est à quelle heure ?
C'est à 18h. Alors, les gens qui sont... adhérent à l'Université du Temps Libre, c'est gratuit. Pour les autres, c'est 5 euros. Voilà, ça dure une heure et quart, une heure et demie à peu près, parce que je parle beaucoup, vous l'avez vu.
Et les prochaines ?
Et donc, demain, alors en plus, je fais des ateliers que je co-anime avec mon camarade de travail, coach, formateur spécialisé en neurosciences, Patrice Bonabès. Je fais un atelier « Comment attirer à moi ce que je souhaite ?» Demain, de 9h à 12h, ça coûte 20 euros. Là, c'est vraiment des outils. C'est pas, on donne de la technique, de la théorie, mais c'est vraiment de la pratique. On travaille sur soi pour aller vers ce que je souhaite. Donc, je vous encourage à prendre mes coordonnées. Mon téléphone, c'est le 06 02 25 14 61. Vous pouvez me joindre par mail aussi à sylvie.rochard65@gmail.com. Sur mon site Facebook, Sylvie Rochard 05 aussi. Et puis je fais un cycle de 3 conférences, une trilogie sur la communication. La première étant « Retrouver son enfant intérieur pour mieux communiquer », je la ferai à Brilançon le 25 avril. La deuxième, c'est celle-ci là sur le triangle dramatique donc, que je fais ce soir. Et j'organise la troisième conférence qui est sur l'énéagramme, connaître l'énéagramme pour mieux communiquer, l'énéagramme étant un outil de connaissance de soi. Je la fais le samedi 16 mars à 18h30 à la Cure des Alberts dans la vallée de la Clarée. Donc c'est la numéro 3 que je vais refaire après sur Briançon, sur Guillestre et sur Valouise dans le courant du mois de mai.
Et on te retrouvera aussi bien sûr pour une prochaine émission sur l'énéagramme.
Eh bien, bien sûr, avec plaisir. Je vous expliquerai un petit peu ça dans le courant de mars ou avril. On va prendre note pour effectivement que je vous explique ce que c'est que l'énéagramme, mais de façon succincte. Hein, la conférence, vous avez plus d'informations quand même. Parce que là,
ça laisse un petit peu de surprise.
Voilà, il faut laisser un petit peu de surprise. Voilà. Puis je vous donne des exemples concrets. Voilà, c'est...
Et on rappelle aussi que tu peux même faire des consultations à domicile.
Voilà, je fais à domicile, alors chez moi ou chez les gens, ça dépend où ils habitent. Par Skype, bien sûr, quand j'ai des clients un petit peu loin, j'ai des clients sur Paris notamment, sur Embrun, Embrun c'est pas trop loin, mais sur Gap aussi. Par Skype, par téléphone, voilà, n'hésitez pas à aller voir mon profil, vous pouvez vous mettre en ami, comme ça mon profil je m'en sers exclusivement au niveau professionnel, donc vous verrez un petit peu tout ce que je fais à ce niveau-là.
Merci beaucoup, Sylvie.
Merci, Laura.